Chapitre 4. Sortir de la tour. La chambre de Moiraine et celle de Siouan se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. La petite table carrée, sur laquelle reposaient également quatre livres, et les deux fauteuils auraient pu venir de la même salle commune de ferme. En revanche, le lit était plus étroit, le tapis rond ilianien rapiécé par endroits arborait des motifs floraux, et la cuvette, dans le coin des ablutions, gardait le souvenir d'un coup reçu dans un passé indéterminé. Ces détails mis à part, en ajoutant que le miroir était fêlé dans un coin, il aurait pu s'agir de la même chambre. Moiraine ne perdit pas de temps à faire du feu. Elle avait mieux préservé ses braises que Siouan, mais elle ne resterait pas assez longtemps pour sentir la chaleur. Du fond de son armoire, un peu plus large que celle de son amie, mais tout aussi ordinaire, la jeune femme sortit une paire de chaussures robustes qui lui arracha une grimace. Taillées dans un cuir rêche et épais, les lacets assez gros pour servir de sangle de selle, ses bottines étaient d'une laideur incroyable. Mais elle lui tiendrait les pieds au chaud dans la neige, un exploit dont auraient été incapables des escarpins. Prenant une deuxième paire de bas, Moiraine s'assit sur le lit, afin de l'enfiler par-dessus celle qu'elle portait. Un moment, elle envisagea de doubler ses sous-vêtements. S'il faisait déjà froid dans la tour, ça risquait d'être terrible dehors. Mais le temps pressait, et elle n'avait aucune envie de retirer sa robe dans une pièce non chauffée. Selon toute vraisemblance, elle serait à l'intérieur pour s'acquitter du recensement, avec une cheminée ou un brasero pour la réchauffer. La plupart des gens prenant les enquêtrices pour des sœurs, comme l'avait prédit Tamara, ils ne les laisseraient pas se geler dehors. Moiraine sortit ensuite de l'armoire un ceinturon de cuir à la boucle d'argent, auquel était accroché un fourreau des plus ordinaires où reposait un couteau à la lame longue d'environ 5 pouces. Quand elle l'eut bouclé à sa taille, la jeune femme se sentit un peu bizarre, puisqu'elle n'avait plus porté l'arme depuis son arrivée à la tour. Mais si on lui interdisait d'utiliser le pouvoir pour se défendre, il fallait bien qu'elle prévoie quelque chose, non? Après avoir récupéré la bourse qui pendait à la ceinture blanche de sa robe, qu'elle avait retirée, Moiraine réfléchit un moment. Selon Tamara, tout ce dont elle pourrait avoir besoin l'attendrait dans ses sacoches de sel. Mais se fier ainsi à une tierce personne, serait-ce la chair d'Amirline, n'était jamais très avisée. S'emparant d'un sac de cuir, Moiraine y fourra son peigne en ivoire et sa brosse aux manches taillées dans le même matériau. Si urgent qu'il fût de collecter des noms, une acceptée ne pouvait pas se négliger sans s'attirer pour le moins des remarques désobligeantes. Moiraine ajouta dans le sac ses gants d'équitation en cuir bleu, avec de très discrètes broderies sur le dos de la main, un nécessaire à couture rangé dans une boîte en bois précieux, une pelote de solide ficelle, deux paires de bas de rechange, au cas où elle se mouillerait quand même les pieds, et plusieurs autres objets, susceptibles de lui être utiles, dont un petit couteau pliable servant à tailler les plumes, au cas où elle devrait en utiliser. Des sœurs n'auraient jamais été contraintes de s'en charger elles-mêmes, mais justement, les acceptées n'en étaient pas. Son sac sur une épaule, la jeune femme prit sa cape de voyage à l'ourlet et au capuchon doublé de fourrure et sortit de sa chambre juste à temps pour voir Meidani et Brendas sortir à grands pas de la galerie où Siouan attendait impatiemment, un sac également sur l'épaule sous sa cape de voyage. Ses yeux brillants d'excitation, elle n'était pas la seule à se laisser emporter par l'euphorie du moment. De l'autre côté de la galerie, Catherine Alroudin jaillit hors de sa chambre, cria à s'en casser la voix que Carlinia devait lui restituer son nécessaire de couture, puis retourna dans son fief, sans même avoir attendu qu'on lui réponde.
« Alana, Prital, l'une de vous pourrait-elle me prêter une paire de bas ?»
demanda une fille à l'étage du dessous.
« Et Désina ?»
lui répondit une voix venant d'au-dessus.
« Je t'en ai prêté une hier !»
Des portes s'ouvraient sans cesse pour laisser passer des furies qui exigeaient que Temeil, Descendre, Coladara ou Atuan leur restituent tel ou tel objet emprunté la veille, ou leur prêtent l'un ou l'autre article indispensable. Si une sœur avait supervisé l'opération, le vacarme que produisaient les acceptés leur aurait valu de gros ennuis, parce que, en principe, ce n'était pas le genre de la maison.
« Tu attends quoi ?»
lança Siouan à Moiraine.
« Allons, en route, avant qu'on nous laisse en plan. »
La jeune femme partit au pas de course, comme si elle craignait vraiment que les gardes s'en aillent sans elle. Il n'y avait aucun risque, bien entendu, mais Moiraine ne discuta pas. Si on lui donnait une chance de quitter la ville, elle n'allait sûrement pas traîner les pieds. En plus, il s'agissait d'une mission confiée par la chair d'Amirline. Quand elles furent sorties de la tour, les deux amies constatèrent que le soleil était encore très loin de son zénith. Des nuages anthracites dérivaient dans le ciel, augurant de très probables chutes de neige. Si c'était le cas, ça ne faciliterait pas le travail des acceptés. Le chemin jusqu'aux écuries ouest fut cependant assez facile. Rien d'étonnant, puisqu'on l'avait déblayé le matin même. Ces écuries se dressant non loin des quartiers des acceptés, elles auraient pu prendre l'attention pour elles,
mais ça aurait été une erreur. Les sœurs confiant leur monture à ces écuries, les hommes d'entretien jouaient de la pelle deux ou trois fois par jour, si nécessaire. Les écuries ouest, bien plus imposantes que celles du Palais du Soleil, étaient composées d'un grand bâtiment principal et de deux ailes d'une taille respectable. La cour intérieure ainsi délimitée grouillait de filles d'écurie en épais manteaux de laine, de chevaux scellés et de gardes de la tour casqués et équipés d'un solide plastron par-dessus leur veste d'uniforme noir. Sur leurs épaules, une cape également noire arborait fièrement la flamme blanche de Tarvalon. Un tabard à sept rayures sur le plastron distinguait le seul officier présent et les sous-officiers. Brendas et Meidani étaient déjà en train de monter en selle. Une demi-douzaine d'autres acceptés, flanqués par leurs gardes respectifs, se dirigeaient vers la porte du coucher de soleil. Moiraine fut agacée que tant de filles leur aient brûlé la politesse. N'avait-elle donc rien emporté pour avoir été si rapide? Cela dit, elles ignoraient ce qu'elles cherchaient vraiment. Et cette idée avait quelque chose de réconfortant. Jouant des coudes pour se frayer un chemin dans la foule, Moiraine atteignit sa jument baie. Une fille d'écurie efflanquée tenait les rênes, une profonde désapprobation sur le visage. Très probablement, elle tiquait parce qu'une acceptée osait posséder un cheval. C'était en effet très rare. Peu de filles avaient les moyens d'entretenir un équidé, et de toute façon, il était en principe exclu de chevaucher hors du domaine de la tour. Mais Moiraine avait acheté Flèche pour fêter son accession au statut d'acceptée. Une manifestation à rien ostentatoire qui était passée près, soupçonnait-elle, de lui valoir une convocation dans le bureau de Meréan Sedai. Quoi qu'il en soit, elle ne regrettait pas son achat. Afin d'éviter qu'elle ait l'air d'une enfant, perchée sur son dos, la jument n'était pas très grande. Particulièrement résistante, elle continuait à courir quand des chevaux bien plus imposants avaient depuis longtemps rendu les armes. En matière de monture, la rapidité était une bonne chose et l'endurance une excellente. Flèche combinait les deux qualités. De plus, elle parvenait à sauter des clôtures qui décourageaient la plupart des autres bêtes. Ce détail avait pour de bon valu à Moiraine un passage dans le bureau de la maîtresse des novices. Les acceptés casse-cou avaient très mauvaise presse parmi les sœurs. La fille d'écurie voulut tendre les rênes à Moiraine, mais celle-ci accrocha son sac au pommeau de la selle, puis ouvrit les rabats de ses sacoches de selle. Dans la première, elle découvrit un petit paquet qui contenait une demi-miche de pain, des abricots secs enveloppés dans du papier huilé et un gros morceau de fromage à pâte jaune. Bien plus qu'il n'en faudrait à Moiraine, mais certaines de ses collègues avaient un plus gros appétit. L'autre sacoche abritait une écritoire pliable, une réserve de feuilles de parchemin et deux porte-plumes, munies de solides plumes en acier.
« Au moins, je n'aurai pas besoin du couteau à tailler. »
C'était déconcertant. Mais Moiraine refusait de trahir sa surprise devant la fille d'écurie. D'habitude, cependant, on ne traitait pas si bien les acceptés. L'écritoire comprenait aussi un encrier de verre au bouchon visiblement conçu pour être étanche. Méfiante de nature, Moiraine vérifia qu'il tenait bien en place, s'attirant ainsi des regards amusés de la fille d'écurie. Eh bien, cette idiote pouvait ricaner si ça lui chantait. En femme d'expérience, Moiraine savait quels dégâts produisait un encrier qui se vide dans des bagages. De temps en temps, il lui arrivait de regretter que les domestiques ne regardent pas les acceptés avec l'admiration béate que leur vouaient les novices. Lorsque Moiraine saisit enfin les rênes, la fille d'écurie la gratifia d'une révérence ironique. Puis elle croisa les mains, proposant une courte échelle à la cavalière. Après avoir enfilé ses gants, l'accepté dédaigna cette aide hypocrite et se hissa souplement en selle. Que la fichue fille d'écurie en prenne de la graine. On l'avait hissée sur son premier poney, contrôlée par une longe bien entendu, dès qu'elle s'était montrée capable de marcher sans qu'on lui tienne la main. Et à 10 ans, on lui avait offert son premier cheval. Les robes des acceptés n'étant pas fendues pour l'équitation, la nécessité de se couvrir hâtivement les jambes cacha un peu la sereine dignité de Moiraine. Pour être honnête, elle s'était moins souciée de sa pudeur que du froid mordant. Encore que la pudeur ait joué un petit rôle, lorsqu'elle s'était avisée qu'un garde la reluquait. Empourprée mais résolue à ignorer le malotru, la jeune femme se tourna vers Suan. Après qu'elles avaient toutes les deux obtenu la bague, Moiraine avait voulu offrir un cheval à son amie. Aujourd'hui, elle regrettait de s'en être laissée dissuader. Avec une monture à elle, la fille de pêcheur aurait peut-être appris les bases de l'équitation. Maladroite au possible, elle venait de monter en selle avec si peu d'aisance que son cheval, un hongre gris, avait tourné la tête pour lui jeter un regard consterné. Pour ne rien arranger, Suan faillit basculer dans le vide, quand elle tenta de glisser son second pied dans l'étrier. Ayant fini par y arriver, un miracle, elle s'agrippa aux rênes, les serrant si fort que ses gants gris se plissèrent sur les jointures. L'air torturé, comme si elle s'apprêtait à passer une épreuve insurmontable, la pauvre Suan faisait pitié à voir. De fait, elle n'avait aucune raison de parader. En matière d'équitation, elle était d'une nullité crasse, et voilà tout.
Des gardes lorgnaient sur ses jambes généreusement dévoilées, mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. De toute façon, ça ne l'aurait pas ému plus que ça. Selon ses récits, pour travailler sur un bateau de pêche, il fallait nouer sa robe très haut au-dessus des genoux. Dès que les deux amis furent en selle, un jeune sous-lieutenant, mince et musclé, désigna 8 gardes pour les escorter. Très élégant, avec son casque orné d'une courte plume blanche, ce garçon se révéla très beau, pour ce qu'on voyait de son visage derrière la grille de son casque. Assez futé pour savoir qu'un garde ne souriait pas à les accepter, il daigna à peine accorder un regard aux deux jeunes femmes, avant de s'en détourner. Moiraine ne se lamenta pas parce qu'il avait omis de lui sourire. Par la lumière, elle n'était pas une idiote de novice. Mais elle regretta de ne pas avoir pu l'admirer plus longtemps. Le chef de l'escorte, lui, n'était pas beau du tout. Sergent de son état, ce vétéran grisonnant à l'air maussade, se présenta d'une voix rauque, il se nommait Steller, ordonna à ses soldats de se déployer autour des deux jeunes femmes, puis il fit volter son hongre rouan en direction de la porte du soleil couchant et se mit en chemin. L'étrange colonne le suivit, Suan et Moiraine, avec le sentiment d'être des vaches poussées à avancer par une bande de bouviers. Moiraine s'efforça de garder son calme. Un bon entraînement, eu égard à ses antécédents. En revanche, Suan parut estimer qu'elle n'avait pas besoin d'exercice en cette matière. « Nous sommes censés aller sur la rive ouest », marmonna-t-elle sans aménité à l'intention de Steller, qui ne se retourna pas. Elle talonna sa monture pour le rattraper. « Vous m'entendez ? La rive ouest !» Le vétéran soupira, puis il consentit à tourner la tête vers l'importune. « J'ai reçu l'ordre de vous y conduire, oui. » Steller marqua une pause, comme s'il cherchait quel titre convenait à son interlocutrice. Les gardes s'entretenaient rarement avec les acceptés. Ne trouvant rien, le soldat opta pour une approche peu protocolaire et plutôt ferme.
« Si l'une de vous est blessée, j'en entendrai parler jusqu'à la fin de mes jours, et ça ne me tente vraiment pas. Restez au milieu de mes hommes. Si vous n'obéissez pas, j'ordonnerai une halte jusqu'à ce que vous capituliez. »
Serrant les dents de rage, Suan se laissa glisser jusqu'à la hauteur de Moiraine. Avec un rapide regard autour d'elle, pour s'assurer qu'aucun soldat ne pouvait l'entendre, celle-ci murmura.
« Tu ne crois quand même pas que nous le trouverons ? De toute façon, il n'est peut-être pas encore né. »
Moiraine aussi espérait que son amie et elle se couvriraient de gloire. Mais elle avait conscience d'évoluer dans la vraie vie, pas dans les contes à dormir debout d'un trou vert.
« Nous avons les mêmes chances que n'importe qui d'autre, »
rappela Suan.
« Et même un peu plus, puisque nous savons ce que nous cherchons. »
Elle continuait à foudroyer Steller du regard.
« Quand je me choisirai un champion, j'en prendrai un qui fait ce qu'on lui dit.
« Tu envisages de te lier à Steller ?»
demanda Moiraine d'un ton innocent. Suan eut une telle expression d'horreur, mêlée de stupéfaction, que son ami faillit éclater de rire. Mais la fille de pêcheur manqua aussi d'en tomber de son cheval, et cet incident-là ne réjouit pas du tout Moiraine. Une fois franchie la porte du soleil couchant, qui devait son nom à l'astre du jour déclinant gravé sur son linteau, il s'avéra très vite que la petite colonne se dirigeait vers le sud-ouest, à travers les rues pavées. La porte d'Alindaer. La ville comptait d'innombrables écluses par lesquelles pouvaient entrer de petits bateaux, et les deux ports, nord et sud, accueillaient les plus grands. Mais il n'existait que 6 ponts, et celui d'Alindaer, parmi les 3 de l'ouest, était le plus méridional. Approcher ainsi du pic du dragon passait pour porter malchance. Mais Steller ne semblait pas le genre d'homme qu'on pouvait faire changer d'avis.
Alors, apprenons à vivre avec ce que nous ne pouvons pas changer,
songea Moiraine. Suan devait être à un souffle d'exploser. Pour l'heure, elle étudiait le dos de Steller. Elle ne le foudroyait plus des yeux, lui accordant plutôt le regard pensif qu'elle posait sur les énigmes qu'elle aimait tant, les plus compliquées, celles dont les pièces ne semblaient jamais devoir s'assembler. Sauf que Suan y arrivait toujours au bout du compte. Pour elle, les mots et les chiffres aussi étaient des énigmes. Et elle y voyait des motifs et une logique qui échappaient aux gens normaux. Concentrée sur le sergent, elle en oubliait de mal chevaucher, donnant même une impression d'aisance, sinon de compétence. Au moins, elle ne semblait plus sur le point de glisser de selle à chaque foulée de sa monture. Allait-elle trouver un moyen de convaincre Steller ? Laissant à l'avenir le soin de répondre, Moiraine s'abandonna aux joies de la chevauchée dans les rues de Tarvalonne. Les acceptés n'avaient pas le droit de quitter la tour tous les jours. Et cette ville était la plus grande du monde connu, et du monde tout court, probablement. L'île mesurait près de 4 lieues de longueur. Si on exceptait les parcs et les jardins, ainsi que le bosquet des ogiers, elle était entièrement couverte de bâtiments. Les avenues avaient été déneigées le matin, et une multitude de passants s'y pressaient,
cédant à contre-cœur le passage aux chaises à porteurs ouvertes ou fermées. Dans cette foule, marcher était plus rapide que chevaucher. Du coup, tout le monde allait à pied, à part quelques entêtés, trop bouffis d'orgueil pour se servir de leurs jambes. Dans cette catégorie, Moiraine repéra une noble de Théard en robe à col montant, qui lui donnait un faux air de cigogne, sa suite de serviteurs et de gardes, une petite colonne de marchands du Candor à l'air grave arborant des chaînes autour du cou, et plusieurs groupes de jeunes damoiseaux du Mourandi, affreusement voyants avec leurs capes aux couleurs criardes, qui auraient normalement dû être dehors en train de se battre. Bien sûr, il y avait les gens comme Suan et elle, qui avaient un long chemin à faire. Voyant qu'elle exhibait de nouveau ses jambes, Moiraine s'efforça de tirer sur sa robe, d'autant plus frénétiquement qu'un marchand du Saldaïa, aux yeux inclinés, venait-elle de voir, reluquait les deux jeunes femmes avec une insistance de rustre. Les hommes ne devinaient jamais quand une femme avait envie qu'on la regarde, et quand elle ne le voulait surtout pas. Ou peut-être s'en fichait-il comme d'une guigne. Par bonheur, la seule présence de Steller et des gardes parvenait à ouvrir un chemin dans la foule aux deux acceptés. En tout cas, c'était la seule explication possible. Parmi les citadins, très peu savaient qu'une robe à l'ourlet rayé signalait une des initiées de la Tour Blanche. Résidant comme visiteur, tous les gens qui sillonnaient Tarvalon prenaient garde à rester le plus loin possible du fief des Aes Sedai, sauf s'ils avaient une raison bien particulière de s'y aventurer. Toutes les nations existantes semblaient représentées dans cette foule. Tarvalon, disait-on, était le carrefour du monde. Moiraine vit des Tarabonais venus du fin fond de l'Ouest, avec sur le visage un voile juste assez transparent pour laisser apercevoir leur épaisse moustache. Ces parangons de puritanisme croisaient allègrement des marins à la peau tannée par les intempéries, qui marchaient pieds nus malgré le froid. En armure et cotte de maille, un cavalier des terres frontalières croisa la petite colonne. Plus impassible qu'une statue, ce soldat du Chiénard avait accroché son casque au pommeau de sa selle, exhibant ainsi son crâne rasé, surmonté d'un unique toupet. Presque à coup sûr, il s'agissait d'un messager en route pour la Tour Blanche. Moiraine songea brièvement à l'intercepter, mais il ne lui aurait sûrement pas transmis son message. De plus, pour lui parler, elle aurait dû échapper au cercle de garde de Steller. Mais au nom de la lumière, comme elle détestait ne pas savoir. Moiraine repéra aussi des Kérieniens en habits sombres, très faciles à identifier parce qu'ils étaient plus petits et plus pâles que tous les autres badauds. Elle vit aussi des Altariens en caprichement brodés et des Altariennes qui s'accrochaient aux pans de la leur, en général rouge, verte ou jaune, pour abriter ce que leur robe très courte exposait généreusement au frimas. Les ressortissants de Théard, des deux sexes, privilégiaient les tissus à rayures et la dentelle, tandis que les Andoriens se limitaient à des tenues passe-partout. Fidèles à leur habitude, ils marchaient avec une belle assurance et à grands pas, comme s'ils étaient pressés d'atteindre une destination qu'ils n'avaient pourtant pas encore bien fixée. Les Andoriens avaient tendance à se focaliser ainsi sur quelque chose. Débordant de fierté et têtus comme des mules, ils manquaient en général d'imagination. Une bonne dizaine de beautés à la peau cuivrée en cape fantaisie, des marchandes presque à coup sûr, comme la majorité des femmes d'Omanie qu'on voyait à l'étranger, étaient occupées à acheter des tourtes à la viande à un marchand ambulant. Non loin de là, un Araphélien, vêtu d'une veste aux manches rayées de rouge, discutait ferme avec un Ilianien, qui semblait moins intéressé par la conversation que par sa cape, qu'il serrait frileusement autour de son torse. Tandis que l'Araphélien gesticulait, se laissant emporter par sa fougue, ses longs cheveux noirs noués en deux tresses ornées de clochettes d'argent oscillaient frénétiquement dans son dos. Moiraine aperçut même un noir qui pouvait appartenir au peuple de la mer. Mais pas à coup sûr, car on trouvait également des noirs à Théard. Les mains de l'homme étant cachées sous sa cape tandis qu'il fendait la foule, la jeune femme ne put pas voir si elles étaient tatouées. Même en parlant normalement, tant de gens produisaient un vacarme assourdissant. Les chariots et les charrettes ajoutaient à cette cacophonie un concert de grincements d'axes mal graissés, de roulements de sabots et de crissements de roues cerclées de fer sur les pavés. Les conducteurs braillaient aux piétons de s'écarter, ce qu'ils ne consentaient jamais à faire de gaieté de cœur, et les colporteurs finissaient de percer les tympans des braves gens en vantant les mérites d'une kyrielle de produits allant des rubans aux cacahuètes grillées en passant par les épingles. Bravant le froid, des jongleurs et des acrobates faisaient leurs numéros au coin de certaines rues. Des hommes et des femmes, un chapeau posé à l'envers à leurs pieds, jouaient de la harpe ou de la flûte et des commerçants, campés devant leurs boutiques, clamaient haut et fort la supériorité de leurs produits sur ceux de la concurrence. Des nettoyeurs des rues armés d'un balai et d'une pelle tiraient leurs brouettes en braillant.
« Place ! Faites place si vous ne voulez pas vous crotter les chaussures !»
Bref, l'atmosphère habituelle de la ville, comme si personne ne remarquait l'odeur de fumée qui planait dans l'air. Une bataille à l'extérieur de Tarvalon ne pouvait pas influencer ce qui se passait à l'intérieur. Une guerre n'aurait probablement pas eu plus d'effet, mais il en allait de même à Kairienne. Ce qui faisait le caractère unique de Tarvalon, c'était Tarvalon, pas ce qui se déroulait autour. Au milieu de son complexe, la tour blanche s'élevait au centre de la ville, et elle tutoyait le ciel comme si elle avait voulu transpercer les nuages. En approchant, c'était la première chose qu'on voyait, longtemps avant de distinguer la cité. Le fief des Aes Sedai, cœur même de leur pouvoir, aurait suffi à singulariser Tarvalon. Mais des dizaines d'autres tours et de minarets s'y dressaient, certaines assez proches pour être reliées par des passerelles qui décrivaient une courbe harmonieuse à 100 ou 200 pieds dans les airs. Même les tours tronquées de Caerien n'égalaient pas tant de majesté et d'ambition. Chaque place disposait d'une fontaine, d'un monument ou d'une statue, certaines trônant sur un socle haut de 40 pieds. Mais les simples bâtiments, à Tarvalon, étaient plus somptueux que les palais et les monuments des autres villes. Autour des demeures des riches marchands et des banquiers, ces magnifiques édifices ornés de flèches, de dômes et de colonnades, les boutiques, les auberges, les tavernes, les écuries et les immeubles d'habitation, sans oublier les modestes maisons des gens ordinaires, elles-mêmes rehaussées de sculptures et de frises, poussaient comme des champignons. Toutes ces merveilles étaient pour l'essentiel l'œuvre des augiers, des artistes qui bâtissaient au nom de la beauté. Pour une demi-douzaine d'édifices, ces génies avaient reçu carte blanche, et on confinait là au chef-d'œuvre. Une banque à deux étages imitait un vol d'oiseaux de marbre prenant leur envol. Le siège de la guilde des marchands du Candor, lui, représentait des chevaux courant sur la crête d'une vague, ou peut-être une vague en train de se transformer en chevaux. Une très grande auberge, le chat bleu, ressemblait très exactement à l'improbable animal dont elle portait le nom, roulé en boule pour dormir, évidemment. Le grand marché aux poissons, effectivement le plus vaste de la ville, avait tout simplement la forme d'un poisson géant avec des écailles vert, rouge et bleu. Un des bâtiments exclusivement augiers était entouré d'échafaudages. Du coup, il se révélait impossible de voir à quoi il ressemblait, puisqu'on apercevait seulement des fragments de marbre blanc ou vert et des esquisses de courbes. Des maçons augiers allaient et venaient sur les niveaux de bois, tandis que d'autres déplaçaient de gros blocs de pierre, à l'aide d'une grue géante. Les chefs-d'œuvre avaient eux aussi besoin de réparation, et pas un artisan humain n'avait les compétences requises. À part en ces occasions, ceux qu'on nommait aussi les bâtisseurs se montraient rarement. Pour l'heure, l'un d'eux se tenait au pied de l'échelle d'un des échafaudages. Vêtu d'une redingote noire, il avait coincé sous son bras un gros rouleau de parchemin, des plans sans nul doute. En plissant les yeux, on pouvait le prendre pour un humain, à condition d'oublier sa taille hors du commun bien sûr, et d'occulter les oreilles pointues et poilues qui jaillissaient de ses cheveux, ou l'énorme nez qui lui mangeait le visage, ou encore sa bouche démesurée et les longs sourcils qui pendaient de son front comme des moustaches. Moiraine salua dignement le géant, qui lui rendit une révérence en lissant pensivement sa longue barbe. Mais lorsqu'il se détourna, la jeune femme vit que ses oreilles frémissaient, et elle crut capter, l'espace d'un éclair, le fantôme d'un sourire. Un augier qui s'aventurait à Tarvalon savait reconnaître une robe d'acceptée quand il en voyait une. Rosissant, Moiraine regarda Siouan du coin de l'œil pour voir comment elle réagissait. Concentrée sur Stellar, son amie n'avait apparemment pas vu l'augier. Quand elle se penchait sur une énigme, elle était immanquablement fascinée. Mais à ce point quand même. Une heure environ après être sortis de la tour, les cavaliers atteignirent la porte d'Alindaer, un pont assez large pour laisser passer 6 chariots de front et flanqués de hautes tours crénelées. On trouvait des tours de garde sur tout le périmètre des murs blancs de la cité, mais aucune n'égalait la taille et la masse de ces deux-là. Un lourd pont-levis était abaissé, mais des gardes le surveillaient en permanence, prêts à donner l'ordre de le relever à la première alerte. Une vingtaine de soldats, sur le bord de la route, examinait soigneusement les rares visiteurs. Ces hommes suivirent du regard la petite colonne, sans doute parce que les robes à l'ourlet rayé les intriguaient. En revanche, il n'y eut aucun commentaire sur le fait que des acceptés quittent la ville. Moiraine en déduisit qu'un autre groupe devait déjà être passé par là. Alors que les rues grouillaient de monde, il n'y avait aucun trafic sur le pont. Les gens qui avaient cherché refuge à Tarvalon étaient arrivés depuis beau temps et, même si la vie suivait paisiblement son cours à l'intérieur des murs, aucun individu censé n'aurait songé à en partir à ce moment précis. Le sous-officier qui commandait les gardes salua Stellar, qui lui répondit sans prendre la peine de ralentir. Quand les sabots des chevaux martelèrent le sol du pont, Moiraine sentit son cœur battre la chamade. Cet ouvrage était une véritable merveille. Bâti avec l'aide du pouvoir, il décrivait dans les airs une arche longue de près d'un quart de lieue, avant de rejoindre la terre ferme, au-delà de la berge marécageuse du fleuve. Sur toute cette distance, rien ne le soutenait, alors qu'il atteignait à l'apogée de sa courbe une hauteur vertigineuse. Une nécessité pour que les grands bateaux de commerce puissent passer dessous. Ce n'était pourtant pas ça qui accélérait le pouls de Moiraine. Elle était à l'extérieur de la cité. Au début de la formation, les sœurs faisaient entrer à coups de masse une idée dans la tête des novices. Mettre un pied sur l'un des ponts, en d'autres termes tenter de fuir, était un crime presque aussi grave qu'un meurtre. Cette règle valait aussi pour les accepter, mais avec elle, il n'y avait plus besoin de masse. Et voilà qu'elle était sortie de la ville, aussi libre que si elle portait un châle.
Enfin, presque aussi libre,
rectifia Moiraine, en considérant les soldats qui l'entouraient. Au point le plus haut du pont, 150 pieds au-dessus de l'eau, Steller tira brusquement sur les rênes de sa monture. Cet homme était-il assez fou pour s'arrêter afin d'admirer le pic du dragon qui se dressait dans le lointain, un filet de fumée montant de son sommet tronqué? Dans son euphorie, Moiraine avait oublié le froid, mais la bise qui balayait le bras de l'Erinine, nommée Larindrel, la ramena à la réalité. Sous ce vent, l'odeur du bois brûlé était particulièrement forte. Les cors ne sonnaient plus, remarqua soudain la jeune femme. Étrangement, leur silence était tout aussi inquiétant que leur omniprésence. Moiraine aperçut soudain les cavaliers massés au pied du pont. Une dizaine d'hommes qui regardaient fixement les murs de la ville. Devant ce spectacle, on oubliait très vite les corps désormais muets. Alors que leurs plastrons et leurs casques brillaient comme de l'argenterie, tous ces hommes portaient une longue cape blanche, dont la traîne reposait sur la croupe de leur monture. S'unir à la source emplit Moiraine de vie et de joie, mais cela augmenta son acuité visuelle, un résultat bien plus important sur le moment. Comme il était facile de le postuler, un soleil étincelant était brodé sur le côté gauche de toutes ces capes. Des fils de la lumière, et qui osaient bloquer le trafic sur l'un des ponts de Tarvalon? En guise de trafic, il n'y avait que Moiraine, Siouan et leur escorte. Mais ça ne changeait rien au fait. À dire vrai, ça les rendait même encore plus inacceptables.
« Sergent Steller, » dit Moiraine. « Les fils de la lumière ne doivent pas s'imaginer qu'ils peuvent intimider des initiés de la Tour Blanche, ni des gardes. On avance. »
Le soldat ne daigna même pas tourner la tête vers la jeune acceptée. Indigné, Moiraine envisagea d'envoyer un tissage d'air lui flanquer une petite tape sur le crâne.
« Moiraine, »
souffla Siouan, un avertissement mêlé de réprobation. Moiraine regarda son amie sans cacher sa surprise. Comment avait-elle deviné ce qu'elle avait en tête? Si au moins elle avait commencé à manipuler le flux, mais ce n'était pas le cas. Cela dit, le rappel à l'ordre était motivé. Certaines choses étaient proscrites, voilà tout. Un peu coupable, Moiraine se coupa du saïdar et soupira, de sentir s'en aller loin d'elle l'exaltation de la vie. Soudain transi, elle resserra sur son torse les pans de sa cape, comme si ça pouvait changer quelque chose à sa détresse. Se détournant, les capes blanches repartirent en direction du village. En fait, Alindaer était pratiquement une ville avec ses bâtiments de briques à un ou deux étages, couronnés d'un toit de tuiles bleues, présentement invisible sous la neige. Alors que les auberges, les boutiques et les marchés s'alignaient le long des rues assez étroites, le manteau de neige conférait à ces lieux une allure paisible des plus trompeuses. Les fils de la lumière disparurent à la vue, puis réapparurent entre deux bâtiments dans une rue qui menait au nord. Voyant qu'il n'y avait pas d'embuscade à redouter, Steller talonna sa monture. Mais sa main resta posée sur la poignée de son épée, et il ne cessa de sonder les alentours, tandis que la petite colonne finissait de traverser le pont. Là où rôdait une bande de fils de la lumière, une autre pouvait ne pas être loin. Moiraine se sentit soudain rassurée par la présence de Steller et des autres gardes. Contre les flèches des capes blanches, un couteau n'aurait pas été très utile. En fait, elle aurait été totalement désarmée. À la lisière de la ville, Siouan talonna de nouveau son cheval pour rattraper Steller. Intensément concentrée sur des pensées qu'elle était seule à connaître, elle en oubliait de chevaucher ridiculement. Sans aller jusqu'à la grâce, son assiette ne donnait plus envie d'éclater de rire.
« Sergent Steller !»
Le ton était parfait. Mélange de civilité et de fermeté, il témoignait d'une sereine confiance en soi. L'air surpris, Steller tourna la tête.
« Vous savez pourquoi nous sommes là, j'en suis sûr. »
Siouan ne laissa pas le temps de répondre au militaire.
« Les femmes qui risquent de partir avant d'avoir entendu parler de la prime vivent logiquement dans les camps les plus éloignés de Tarvalon. S'y rendre hier aurait été dangereux. Mais selon les rapports reçus par la chair d'Amerline, les aguelles battraient en retraite. »
Par la lumière. On eût dit que la dirigeante suprême de l'ordre lui faisait régulièrement des confidences. Du grand art.
Notre mère attache une importance toute particulière à ce qu'aucune de ses femmes ne parte sans avoir reçu son dû. Je suggère donc que nous commencions par les camps les plus périphériques.
Siouan ponctua sa tirade d'un geste qui aurait pu être vague, mais qui désignait en fait le pic du dragon.
C'est la volonté de la chair d'Amerline.
Moiraine retint son souffle. Siouan avait-elle trouvé le moyen de manipuler le soldat?
Il n'y a plus un Aiel de ce côté du fleuve,
admit Steller. Mais il doucha très vite les espoirs des deux jeunes femmes.
Cela posé, on m'a dit de m'en tenir aux camps les plus proches. Et c'est ce que je vais faire. Au cas où, sachez que j'ai ordre de faire accompagner à la tour toute personne qui se montrerait rétive. Mais ce n'est pas votre cas, j'en suis sûr.
Siouan tira sur les rênes de sa monture pour que sa compagne puisse la rattraper. Voyant que les yeux de son ami brillaient sombrement, puis s'avisant que l'aura du Saïdar l'enveloppait, Moiraine crut bon d'intervenir.
« Non, il ne faut pas, »
dit-elle simplement.
« Pardon ? Je voulais juste faire porter ma vue plus loin, au cas où il y aurait d'autres capes blanches. »
Moiraine fonça les sourcils. Prise en flagrant délit de mensonge, Siouan s'empourpra. Puis l'aura du pouvoir se dissipa. Ce qui venait d'arriver était logique. Après 6 ans d'entraînement en commun, un regard suffisait pour que Moiraine devine que son ami mijotait une facétie. Pour quelqu'un de si intelligent, Siouan n'était pas toujours très clairvoyante.
« Je ne comprends pas comment tu supportes cette torture !»
dit la fille de pêcheur, en se dressant sur ses étriers pour soulager son postérieur.
« Si ce fichu camp est encore loin, j'aurais besoin des services thérapeutiques d'une sœur. J'ai un onguent spécial !»
annonça Moiraine en tapotant le sac accroché au pommeau de sa selle. Le couteau à tailler les plumes ne lui serait pas utile, mais le baume, en revanche...
« Si tu avais un carrosse dans ton maudit sac !»
marmonna Siouan. Alindaer était aussi désert que paisible. Durant les guerres des Trollocs, il avait été incendié 3 fois, et une 4e vers la fin de la guerre du 2e dragon, puis 2 autres encore, lors du siège de Tarvalon, long de 20 ans, mené par les forces d'Arthur Aldefaucon. Comme s'ils avaient prévu une 7e catastrophe, les habitants étaient partis se réfugier en ville, en laissant derrière eux, parfois au milieu de la rue, tout ce qu'ils ne pouvaient pas porter. Mais les portes et les volets de toutes les maisons étaient fermés, prouvant que ces gens s'attendaient à revenir un jour chez eux. L'odeur de brûlé était plus forte ici que sur le pont, et un silence de mort régnait dans les rues. Alors que le grincement des enseignes d'auberges malmenées par le vent venait parfois troubler ce calme, Alindaer, vue de plus près, donnait une impression sinistre, malgré l'éclatante blancheur de la neige. Même si la petite colonne prit la direction du sud, loin du pic du dragon, Moiraine fut ravie de laisser la petite ville derrière elle. Selon les rapports, les environs devaient être tranquilles, et de fait, l'odeur de fumée se fit de moins en moins agressive. Siouan n'en conçut cependant aucun soulagement. Regardant souvent derrière elle, la moitié du temps, Moiraine dut la retenir pour qu'elle ne glisse pas de sa selle, elle regardait le pic du dragon, en marmonnant ou en grinçant des dents assez fortement pour être entendue. Les deux amis parlaient souvent de l'ajat qu'elle choisirait, une fois en possession du châle. Si Moiraine était tentée par le bleu, il lui semblait de plus en plus probable que Siouan opterait pour le vert. Le premier camp, environ 1/4 lieue après le village, était composé de chariots et de charrettes, stationnés dans la plus belle anarchie. Des feux de cuisson brûlaient, entre des tentes de toutes les tailles et des abris de fortune improvisés avec des broussailles. Dans les 3 forges de campagne, les marteaux résonnaient fièrement sur les enclumes. Sur ce qui aurait pu passer pour une place centrale, des enfants jouaient dans la neige, sans se douter qu'il y avait la guerre et que leur père était peut-être mort la veille. Faisaient-ils semblant, ces gamins, ou étaient-ils inconscients à ce point? Dans les circonstances présentes, Moiraine espéra pour eux que la seconde réponse était la bonne. Les cordes servant à attacher les chevaux pendaient dans le vide, et à part les forgerons, on voyait très peu d'hommes dans le camp. En revanche, une bonne 50aine de femmes faisaient la queue devant une tente ouverte où une acceptée, flanquée de 4 soldats, avait pris place derrière un petit bureau portable. Du coup, Steller ne ralentit même pas l'allure. Moiraine s'ouvrit très brièvement à la source, et elle sentit que Siouan l'imitait. Simplement pour mieux voir de quelle fille il s'agissait, bien entendu. Avec ses multiples tresses, la coiffure rituelle du Tarabone, sa reine était la plus jolie résidente des quartiers des acceptés. Si on acceptait Elide, devait-on à la vérité de mentionner. Mais sa reine n'avait aucunement conscience d'avoir été gâtée par la nature. Elide, au contraire, souffrait d'une fâcheuse tendance à faire la roue. Toute médaille ayant son revers, sa reine manquait terriblement de délicatesse pour une fille de commerçante. Lorsqu'elle était partie pour Tarvalon, nul doute que sa mère avait dû pousser un gros soupir de soulagement.
« J'espère qu'elle ne va pas multiplier les gaffes ce coup-ci. »
souffla Siouan, comme si elle avait lu les pensées de son amie. Mais elle connaissait toutes deux assez bien sa reine pour ne pas se faire d'illusions. Une amie, certes, mais parfois un rien difficile à supporter. Par bonheur, elle ne semblait pas non plus s'apercevoir qu'elle marchait avec une belle constance sur les pieds des gens. Cette innocence la sauvait, en quelque sorte. Après 100 pas, l'aura cessa de briller autour de Siouan, et Moiraine se coupa elle aussi du Saïdar. Une sœur risquait de les voir, après tout. Dans le camp suivant, encore plus désorganisé, personne n'était en train d'effectuer le recensement. Avec ses 6 forges en exercice et sa ribambelle d'enfants, ce campement était encore plus bruyant que le précédent. Les hommes y brillaient tout autant par leur absence, ainsi que les chevaux. Mais à sa grande surprise, Moiraine repéra plusieurs coches fermées. Elle fit la grimace en reconnaissant l'accent mourandien dans les échos de voix qui parvinrent à ses oreilles. Chatouilleux dès qu'il était question d'honneur et prompt à se battre, les mourandiens passaient une bonne partie de leur temps à disputer des duels. Cela dit, Lorsque Steller eut annoncé d'une voix de stentor l'objet de sa visite, personne ne manifesta l'intention de lui chercher querelle. Très coopératif, deux jeunes types à la cape élimée apportèrent un bureau et deux chaises pour les accepter. Ils disposèrent le tout en plein air. Mais deux autres gaillards arrivèrent avec des braseros à trois pieds qu'ils installèrent de chaque côté du bureau. Dans ces conditions, la séance promettait de ne pas être trop désagréable.